Sans doute, vous avez le sentiment que ce soir, on va vous parler d'une découverte dont on a déjà pas mal parlé, mais là, on va avoir des détails plus croustillants sur la manière dont cette découverte a été faite. Je trouve que cette découverte a ceci d'intéressant, c'est qu'elle a été recherchée bien en amont, hein, avec beaucoup, beaucoup de ténacité pendant des années et des années, alors que très souvent, les découvertes en physique et en astrophysique, soit sont faites par hasard, on n'y prend pas, on n'y fait pas attention, on découvre après coup qu'il y avait une théorie qu'il avait prédite longtemps en avance, soit la théorie est déjà faite, mais personne n'y croit, et puis c'est par hasard que l'observation ou les expériences confirment la théorie. Enfin, il y a toujours des décalages, soit d'un côté comme de l'autre. Et là, au contraire, on est dans un cas de figure assez, finalement, très préparé, très prévu, et puis voilà, et ça a fonctionné, et c'est ce qui fait, d'ailleurs, à mon avis, la beauté et l'élégance de cette découverte. Voilà. Donc, je vous présente Bruno Mancelier, qui a accepté de venir nous parler de la découverte de cette particule au LHC du CERN. Il m'a dit qu'il avait eu toujours beaucoup de chance, puisque déjà, comme physicien au CERN, en 1980, il avait participé à l'équipe qui a découvert deux bosons intermédiaires, le W et le Z, et puis une deuxième fois au Fermilab aux États-Unis où il participe à la découverte, enfin, il fait partie de l'équipe qui découvre le quark top. Enfin, vous savez, il y a plusieurs quarks, mais le dernier à avoir été découvert, c'est celui qui porte le nom de top, quark top. Voilà, et c'est donc pas terminé, puisqu'il a participer largement à cette nouvelle aventure. Et pour cela, donc, il a travaillé au CEA, à l'IRFU, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Il y a beaucoup de projets qui sont des projets tous au croisement les uns des autres. On y trouve l'astrophysique, on y trouve la physique, on y trouve la recherche physique nucléaire, technique d'accélération de particules. Enfin, tout ça, c'est donc un creuset très, très fertile, très important. Et Bruno, dans ce contexte-là, Bruno Mancelier a été l'initiateur de l'expérience ATLAS, qui est un des détecteurs installés auprès du LHC, dont je pense on va entendre parler, qui est une des plus importante expérience sur le collisionneur en question. Voilà. Et tout cela a abouti donc à cette découverte. Et maintenant, je vais me taire, vous laisser donc nous en parler. Merci.
Merci Daniel. Et même merci à tous d'être venus. Donc oui, je vais essayer de vous faire partager un peu plus de l'intérieur la découverte du Higgs dont vous avez sûrement entendu parler dans les médias. Donc les parties de mon exposé, ça sera bon. Je vais quand même vous rappeler un peu le cadre théorique. Bon, on ne va pas faire un grand cours sur le boson de Higgs, mais rappeler un peu le modèle standard et le boson de Higgs. L'aventure expérimentale du LHC au CERN, dont Daniel a dit qu'elle avait été très linéaire, on savait ce qu'on cherchait, c'est vrai, mais jusqu'à il y a quelques années, il y avait encore, moi j'ai un collègue théoricien qui a fait toute sa renommée sur les Higgsless models, c'est-à-dire les modèles sans Higgs. Hein, donc c'était quand même pas complètement gagné. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que c'est que voir une nouvelle particule de façon moderne, hein? Qu'est-ce qu'on a vu dans ces expériences ATLAS et CMS qui ont dit qu'ils avaient fait la découverte? Et puis, j'aurais juste un tout petit peu de temps, puisqu'on est à l'IAP, pour vous donner deux petites questions qui concernent donc le Higgs et la cosmologie, et en particulier, qu'est-ce que cette nouvelle découverte implique? Est-ce qu'il y a des relations avec la cosmologie? Et il y en a des très intéressantes. Voilà. Alors, la physique des particules, en très très bref, dans la physique des particules, ça s'occupe de savoir quels sont les constituants élémentaires de la matière, les plus élémentaires, les briques élémentaires, et leurs interactions. Donc, ça pose un certain nombre de questions auxquelles ça essaie de répondre. La première question, c'est lesquelles? Donc, c'est quoi les briques, hein? C'est les particules élémentaires, donc les quarks, les électrons, les interactions électromagnétiques, l'interaction faible, nucléaire forte, la gravité. Et puis, parmi les questions ouvertes des constituants élémentaires de la matière, il y a par exemple le problème de la matière noire. Je suis sûr que dans les conférences qui ont lieu ici, vous avez entendu plein de choses sur le problème de la matière noire. Donc, on est loin d'avoir répondu à la question « lesquelles ». L'autre type de question, ça peut être « pourquoi ?» Pourquoi les particules existent? Ça, j'en dirais un mot, c'est évidemment pas évident. D'où vient leur masse, leur charge, Puis après, il y a des plus grands pourquoi. Pourquoi il y a trois dimensions à l'espace, pourquoi, etc. Donc toutes ces questions sont toujours que partiellement répondues. Et puis la question de l'origine, d'où viennent-ils ces constituants et leurs interactions. Donc maintenant, il y a une théorie très établie qui dit qu'ils viennent du Big Bang. Bon, ça, on sait à peu près quand, hein, il y a 13 milliards d'années. Mais il s'agit de décrire toute l'évolution de l'univers à partir du Big Bang, c'est-à-dire savoir passer des particules, aussi élémentaires que possible, à des états plus grands, comme des noyaux, des atomes, et puis des galaxies, des étoiles, des planètes, et puis des petits bonshommes qui se posent toutes ces questions. Hein. Donc voilà de quoi on s'occupe quand on fait de la physique des particules. Et je tiens à dire, c'est le lieu de le dire, que ces questions sont maintenant complètement unifiées entre le microcosme et le macrocosme. Et on pose les questions sur tous les plans. On a l'ambition de décrire l'univers du Big Bang jusqu'à maintenant à partir des lois microscopiques. Alors la construction du modèle standard de la physique des particules. Donc actuellement, on a un modèle qui marche très très bien pour les particules qu'on connaît, disons, peut-être pas pour la matière noire, mais pour les particules qu'on connaît, il décrit toutes les particules et leurs interactions. Je ne vais pas passer en détail à travers, certains d'entre vous savent qu'il y a 6 quarks, etc., parce que ça sera un peu long, puis finalement, ce n'est pas ça le plus important. Il y a une petite table de Mendeleïev des particules élémentaires et de leurs interactions. Comment ça s'est construit ? Ben, ça a pris tout le XXe siècle. Essentiellement, ça commence avec la mécanique quantique et la relativité en 1905, et puis ça déroule pendant tout le XXe siècle, la découverte des constituants de la matière de façon expérimentale, avec un jeu expérimental et théorique, les quarks, les électrons, les neutrinos. Et on est arrivé maintenant à explorer ces constituants jusqu'à une échelle de dimension qui est à peu près 1/100 de la taille d'un proton, c'est-à-dire 10 puissance moins 17 mètres. Voilà. On a identifié les interactions microscopiques, c'est-à-dire les interactions qui régissent les forces entre ces constituants. Et puis, on en a fait une description mathématique unifiée, donc comme je le disais, à base de mécanique quantique et de relativité, qui marche très bien. Et donc, on a cette description englobe les constituants, leurs interactions et le microscopique à l'univers. Mais, c'est là, bon, je ne peux pas non plus décrire la théorie du modèle standard en détail, mais ce qu'il faut juste essayer de comprendre, c'est qu'avant cette date, 1964, on peut dire que la théorie qui décrit ça, elle est assez bien posée, mais elle cherche un principe unificateur. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait des lois de symétrie très profondes entre les interactions. Par exemple, on a su identifier des relations profondes entre l'interaction électromagnétique, hein, qui régit la charge électrique et les champs magnétiques, par exemple, ou la lumière normale, et l'interaction nucléaire faible, celle qui est responsable des désintégrations bêta, de pourquoi le soleil brûle. On a vu qu'il y avait des symétries très profondes entre ces deux interactions. On a l'impression que c'est un peu la même interaction, sauf qu'il y a quelques différences qu'on n'a pas su unifier. Et de la même façon, entre constituants, on voit qu'il y a des neutrinos. On a identifié des neutrinos, on a vu qu'il y a un neutrino qui correspond à l'électron. Il y a un neutrino-électron. Il y a une symétrie du même type entre les quarks up et les quarks down. Les deux quarks qu'il y a dans les protons et les neutrons, il y a aussi cette symétrie. Donc on voit qu'il y a plein de symétries là, mais on n'a pas trouvé comment réaliser ces symétries de façon correcte, disons. Et on pense que très très peu de temps après le Big Bang, ces lois, ces symétries-là étaient valides. À très haute température ou très haute énergie, on voit que tout ça se comporte de la même façon. Le seul problème sur lequel on a buté jusque dans les années 60, c'est que ces symétries très esthétiques, très jolies, ne peuvent être réalisées que si les particules n'ont pas de masse. Aucune particule n'a de masse. À ce moment-là, toutes les symétries tombent en place et on comprend bien la structure des interactions. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Hein. La réalité est évidemment différente. L'électron a une masse de l'électron, les quarks ont des masses de quarks. Et, voilà. Et d'ailleurs, il faut remarquer que si les particules n'ont pas de masse, on ne peut pas construire un univers, parce qu'elles vont toutes à la vitesse de la lumière, elles ne font pas d'étalier, elles ne font pas de noyaux, elles ne font pas d'atomes. Donc on sait, c'est un univers peu hospitalier. Donc on butait sur ce problème. Donc, c'est là qu'intervient donc, la découverte de Higgs et des autres théoriciens qui ont travaillé sur la question. Hein. C'est le boson de Higgs et la masse des particules. Donc, l'origine des masses, alors là, on parle ici de masse inertielle, c'est-à-dire pas la masse liée à la gravitation, pas celle qu'il y a dans la loi de Newton de l'attraction universelle, mais la masse de l'inertie, c'est-à-dire celle qui résiste à l'accélération. D'accord ? En fait, pourquoi il y a une masse inertielle ? En fait, pourquoi ça résiste ? Hein, si je pousse, qu'est-ce que c'est que la masse inertielle ? C'est j'applique une force à un endroit, S'il n'y a rien, il n'y a pas de particules, ben, ça s'enfonce. S'il y a quelque chose, ça résiste. Ça résiste d'autant plus, je dis que la masse, quand ça résiste plus, je dis la masse inertielle est plus grande. Mais en fait, ça pose toute la question de qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire. C'est-à-dire pourquoi il y a de l'énergie, entre guillemets, là et pas ailleurs, hein. Pourquoi ça résiste quand j'essaie de pousser? Alors c'est évidemment des relations avec la gravitation, des relations assez obscures, en fait, avec l'énergie noire, etc. Et alors, là où intervient le mécanisme de Higgs, qui est l'élaboration, pas seulement de M. Higgs, hein, de toute une pensée théorique, c'est comment donner une masse naturelle, une masse inertielle naturelle aux particules. C'est-à-dire, comment la physique, l'état fondamental, va donner une masse à ces particules à un endroit précis, faire qu'elles vont acquérir une inertie. Et en préservant les jolies symétries dont je vous ai essayé de vous parler, de donner un parfum au transparent précédent. Voilà, c'est ça qui fait le mécanisme de Higgs, il va donner des masses, mais en gardant les structures des interactions cachées derrière. Alors, tout cela, évidemment, quand on ne fait pas la mathématique, est un peu flou. Alors, bon, d'abord, l'année fondatrice, hein, de la parution de ces... du papier de Higgs. Donc il y a deux papiers, deux publications qui apparaissent à peu près au même moment. Une par deux physiciens belges, deux théoriciens qui la font ensemble, qui est M. Brout et M. Engler. Alors malheureusement, M. Brout est décédé et M. Engler, lui, par contre, est bien vivant. Et puis une par M. Peter Higgs tout seul. Et Peter Higgs, il est bien vivant aussi. Il attend son prix Nobel avec impatience. Alors, donc, ces deux articles essentiels qui, pour le professionnel, décrivent parfaitement le mécanisme, c'est-à-dire cette façon que le vide va acquérir, j'essaierai de vous donner une idée un peu, une structure particulière qui va donner des masses aux particules. Alors maintenant, à qui on doit donner le prix Nobel, justement? Est-ce que les deux articles prédisent la même chose? Bon, moi, j'ai regardé en détail ces articles pour essayer de me convaincre. Sur le fond, c'est pareil, hein, c'est pour un professeur, c'est pareil. Mais il faut avouer que, bon, il y a une ligne là, alors qui pour vous est complètement du charabia, mais qui pour nous décrit effectivement le boson de Higgs. Voilà. On peut dire que finalement il mérite son nom, le boson de Higgs. Higgs mérite qu'on ait donné son nom au boson parce que le mécanisme est le même, mais lui, il décrit la particule qui va être fournie par ce mécanisme. Alors ensuite, après ces papiers fondateurs, donc il y avait des précurseurs que j'ai mis là. Bon, il y a des anecdotes sur ces précurseurs qui ont des fois... M. Anderson, qui est le premier à avoir pensé au système, vraiment, en physique du solide, il les a longtemps jalousés. Hein. Il n'était pas content du tout qu'on ne l'ait pas appelé boson de Anderson. Mais ce n'est pas lui qui a écrit ça non plus. Alors, voilà. Donc ensuite, après ces papiers fondateurs, ça a été repris par beaucoup d'auteurs, en particulier les grands auteurs Weinberg, grand théoricien, et Salam, pour créer donc ce fameux modèle standard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie, elle dit absolument tout. Comment le Higgs va se coupler à toutes les particules, leur donner de la masse, etc. Sauf, il y a une chose qu'elle ne dit pas, c'est quelle est la masse du boson de Higgs lui-même. Donc, originellement, à partir des articles, tout ce qu'on peut se dire, c'est que le Higgs, il a une masse qui va de 2 GeV à peu près jusqu'à 1000 GeV, ce qui fait une gamme extrêmement large. Et donc, on a commencé à le chercher tout de suite. Et on ne l'a trouvé que l'an dernier, à partir de 1964. Alors, le mécanisme de Higgs, comment vous donner un parfum du mécanisme de Higgs? Alors là, j'appelle à mon secours les physiciens anglais, parce qu'il s'est passé dans les années... On commençait à penser à financer le LHC, là, dans les années 90, et c'était sous Thatcher. Je ne me souviens plus quand est-ce que c'était Thatcher. Certains ont les dates en tête, certainement. Mais Madame Thatcher n'était pas très favorable à la recherche fondamentale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc son ministre de la Recherche, qui s'appelait Waldegrave, les physiciens anglais ont lancé un challenge, qui était de dire, voilà, de trouver la meilleure image pour expliquer à leur idiot de ministre comment ça marche le mécanisme de Higgs. Et le gagnant, c'est David Miller, un collègue du CERN, donc anglais, qui a trouvé une idée qui est absolument géniale et qui vraiment est très très proche de la physique qui se passe dans le mécanisme de Higgs. Alors ça marche comme ça. Il y a une assemblée de physiciens qui grouille un peu dans une salle, et ça, c'est l'image du vide quantique. Le vide quantique a des fluctuations, vous savez, c'est pas un vide complètement plat. Il a des fluctuations, mais bon, l'état fondamental est moyenné, et bon, il ne se passe rien de spécial. Donc c'est une assemblée de physiciens. Et puis il arrive dans la pièce une personnalité qui est figurée ici, un petit Einstein, là, qui est au début libre de ses mouvements. Tant qu'il n'est pas dans le vide quantique, il est libre. Donc on va dire qu'il a une masse nulle. Si on le pousse, finalement pas très lourd, il ne résiste pas. Mais donc autour de lui, le vide va s'agglutiner, hein, parce que quand même, autour d'une personnalité, on a toujours envie de le côtoyer. Donc ça va faire une espèce de gros amas, là, et là, ça acquiert une masse. Parce que ce gros amas, si on veut le pousser, ça va avoir de l'inertie. Donc voilà. Donc en termes techniques, sur la théorie, ce qu'on dit, c'est que le vide se condense autour d'une particule. Hein, le mécanisme de Higgs, c'est essentiellement la condensation du vide lui-même, du vide quantique, autour d'une particule. Et ça lui donne une masse. Mais l'image ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est très fort dans l'image de Miller. C'est qu'elle décrit aussi le boson de Higgs lui-même. Pourquoi cette façon qu'a le Higgs de se condenser va aussi produire une particule très spécifique? Eh bien, supposons qu'on a toujours ce Higgs et on lance une rumeur dans la pièce. Il n'y a pas de particule. Eh bien, les gens vont quand même s'auto-agglutiner autour de la rumeur, sans qu'il y ait de germe, si vous voulez. Et ça, donc, ça va faire un amas qui est typique d'une masse d'une rumeur. Et ça, c'est le boson de Higgs lui-même. Et c'est extrêmement proche de la théorie, c'est-à-dire que dans le mécanisme de Higgs, le vide quantique est auto-couplé. C'est-à-dire qu'il peut se coupler à lui-même. Et le résultat de l'auto-couplage, c'est une particule qui est parfaitement détectable pour peu qu'on ait injecté assez d'énergie pour la produire, évidemment. On a toujours limité par la formule d'Einstein, E égale mc2, pour produire une particule de masse m, il faut mettre une énergie E. D'accord ? Donc en termes techniques, c'est le vide quantique peut s'auto-condenser, et c'est ça le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est le témoin de l'auto-condensation du vide, si j'ai mis assez d'énergie dans le système. Voilà. Et bien, donc voilà, pour tester cette théorie, il suffit d'atteindre une énergie suffisante dans des collisions de particules pour créer des bosons de Higgs. Et donc la précédente machine, le précédent accélérateur au CERN, qui s'appelait le LEP, qui faisait des collisions électrons-positrons, avait cherché, n'avait pas trouvé, avait donné une limite sur la masse du Higgs en disant « il est plus lourd que ce que je peux essayer de chercher au LEP, qui fait 114 GeV ». Voilà. Alors la ambition du LHC, c'est qu'on savait, avec nos simulations et nos calculs, que dans les collisions proton-proton, on pouvait explorer toute la gamme de masse, donc à partir de la limite du LEP, 114 GeV, jusqu'à essentiellement 800 GeV ou 1000 GeV. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner une idée de ce que la théorie... À quoi sert le boson de Higgs dans la théorie? Alors, une autre façon de voir les choses, donc je vous ai dit qu'on liait ça aussi beaucoup à l'évolution de l'univers. Donc, si on prend l'évolution de l'univers à partir du temps zéro, bon, le temps zéro, c'est il y a 13,7 milliards d'années, il y a le Big Bang, il y a forcément au début une période inconnue et mystérieuse avec des températures plus immenses, hein, donc supérieures à 10 puissance 30 Kelvin. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la température de Planck, si on veut. La gravité est forte. Là, on ne sait rien. Et puis, tout ça, ça commence à s'étendre et à refroidir jusqu'à une température de 10 puissance 16 Kelvin. On est à un temps, là, un peu avant quelque chose comme 10 moins 12 secondes, la première picoseconde. Donc, l'univers est encore très chaud, hein, 10 puissance 16 K, et il se refroidit. On a déjà les particules élémentaires actuelles, les quarks, électrons, neutrinos, etc., mais ils n'ont pas de masse. D'accord ? À peu près autour de 10-12 secondes, on a l'entrée en action du mécanisme de Higgs. Cette espèce de condensation. Donc c'est une transition de phase tout à fait similaire à une condensation. D'accord ? C'est-à-dire tout à fait similaire à ce qui se passe quand on descend de la température de vapeur d'eau. Elle se condense. Voilà. Donc cette transition de phase fait que le vide quantique acquiert cette tension interne, une espèce de tension, c'est très similaire à une tension interne, qui va lui permettre de s'accumuler si on lui met un germe, comme une particule, ou de s'auto-condenser si on lui met de l'énergie et pas de particules. Voilà. Après le temps de la transition de phase, donc après le mécanisme de Higgs, eh ben, les particules ont acquis une masse, parce qu'elles transportent avec elles le vide auto-condensé, là, et elles ne vont plus à la vitesse de la lumière. Sauf la lumière elle-même, parce que la structure du mécanisme de Higgs était bien pensée pour faire que le photon, lui, n'est pas couplé au boson de Higgs. Donc le photon reste sans masse. Voilà. Donc on peut voir ça dans l'évolution de l'univers. Bon, et puis, 13 milliards d'années plus tard, on a réalisé la première reproduction de boson de Higgs artificielle en laboratoire. Alors, les expériences en physique des particules, ça vous savez certainement, bon, ça consiste, comment sonder la matière à toute petite échelle ou à très très haute énergie. Ben, on accélère des particules à grande énergie. Donc il y a toujours la relation entre l'énergie qu'on peut sonder ou la taille qu'on peut sonder et l'énergie des particules avec lesquelles on sonde. Donc pour sonder à une distance de 1 micron, il faut des photons d'un électronvolt, c'est ce qui se passe dans les microscopes optiques. Si on veut sonder à des tailles plus petites, de l'atome par exemple, il faut des microscopes électroniques. Si on veut sonder à des fractions de la taille d'un noyau ou d'un proton, eh bien, il faut des accélérateurs plus grands. Ça, c'est le dernier microscope électronique qui a été utilisé, c'est l'accélérateur linéaire de Stanford, donc 3 miles de long, hein, qui était en service jusqu'en 2005. C'est exactement la même structure qu'un microscope électronique. Donc, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on a construit des accélérateurs de plus en plus grands. Alors, au CERN, les fleurons ont été des accélérateurs circulaires. Bon, parce que quand on fait tourner les particules, on peut les accélérer plus souvent et les réutiliser aussi. Donc il y a eu toute une succession d'accélérateurs circulaires. Le premier construit en 59 avait un diamètre de 72 mètres. Le LEB dont je vous ai parlé avec son diamètre de 9 km, donc un tunnel de 27 km de long, circulaire, à 100 mètres sous la Terre, qui a fonctionné jusqu'en 2000. Et le LHC qu'on a construit dans le même tunnel, on a enlevé cet accélérateur pour mettre un accélérateur à protons qui accélère des protons, donc jusqu'à, sur le papier, enfin le cahier des charges, c'était 7000 GeV contre 7000 GeV, on appelle ça des téraélectronvolts, c'est des milliers de gigaélectronvolts, dans le tunnel du LEP qui a été mis en service en 2008. Donc je vais vous en dire un mot, évidemment, puisque c'est la machine qui me concerne. Voilà, donc c'est un collisionneur proton-proton. Alors c'est un collisionneur, ça je n'ai pas défini ce que c'est, c'est-à-dire qu'on fait tourner des faisceaux de protons dans les deux sens, dans le sens des aiguilles du montre et dans le sens opposé aux aiguilles du montre, et on s'arrange pour qu'ils se rencontrent à des points précis. Ici, vous voyez la construction des lâchers dans le tunnel. Les aimants supraconducteurs qui guident les particules, ils sont là. Et les deux capuchons jaunes, là, se recouvrent chacun un des tubes. Donc il y a deux tubes, puisque c'est des protons et des protons. Donc les champs magnétiques qui les guident doivent être opposés. Et donc c'est ça, c'est vraiment comme deux accélérateurs, côte à côte, et qui se croisent à quatre points d'interaction. Donc, l'image que je prends souvent, c'est comme si vous preniez le périphérique parisien, qui a à peu près la même taille. Et puis, en quatre points, vous échangez périphérique intérieur et extérieur dans un croisement. Ça fait des collisions. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est l'énergie. Donc, j'ai dit en design 7 téraélectronvolts avec des collisions donc à 14 téraélectronvolts, qui est 7 fois plus que le précédent collisionneur en action aux États-Unis, qui a maintenant fermé d'ailleurs. Et aussi, très important, c'est l'intensité, ce qu'on appelle la luminosité, c'est-à-dire le nombre de collisions par seconde, qui est absolument énorme, 40 millions de collisions par seconde, c'est-à-dire 100 fois plus que le précédent. Donc l'historique du projet, hein, la première réunion à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister d'ailleurs, c'était en 1984, où on a commencé à parler de construire un accélérateur comme ça. Voilà, l'accord des pays européens, très important, en 1994, d'autres, quelques autres dates, et la mise en service, finalement, en 2008. Qui a été un peu problématique, puisque certains d'entre vous doivent se souvenir qu'en 2008, il y a eu un accident, après 10 jours de fonctionnement, qui a détruit 200 mètres de machine, et on a attendu un an pour réparer et prendre les mesures de sécurité, enfin, de sécurité d'instruments. Hein. Voilà. Bon. Alors, techniquement, bon, c'est quand même une prouesse technologique, hein, cette machine. Je le dis d'autant plus facilement que ça, ce n'était pas mon domaine. C'est le domaine des ingénieurs du CERN qui ont vraiment fait des choses extraordinaires. Donc, la base de l'accélérateur, c'est des aimants de courbure, hein, qui courbent la trajectoire des protons. Évidemment, plus vous arrivez à mettre de champ magnétique, plus vous pouvez avoir d'énergie pour le même rayon. Donc, comme le tunnel était fixe, il fallait avoir le maximum de champ magnétique. Et ils ont atteint le record de 8,4 Tesla. Alors que tous les accélérateurs précédents culminaient à 4 Tesla, la moitié, sur une longueur de 15 mètres, c'est des monstres, ces dipôles, hein. Il y a 1230 aimants comme ça. Ils sont tous supraconducteurs, il y a 5000 autres aimants pour la focalisation des faisceaux. Tout ça est supraconducteur et même marche à l'hélium liquide superfluide, Pour ceux que ça amuse, je pourrais leur dire pourquoi superfluide, c'est beaucoup mieux que l'hélium bouillant à 4K. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, après les débuts un peu chaotiques de 2008, on a vraiment tourné à basse intensité en 2010. Et vraiment, les périodes de prise de données qui ont donné les résultats, c'est 2011 et 2012, où on a fonctionné à 4000 GeV contre 4000 GeV, c'est-à-dire 4 TeV sur 4 TeV. À cause de l'accident de 2008, on n'est pas allé, on n'a pas voulu reproduire cet accident, donc on n'est pas allé à l'énergie maximale, donc il a fallu se contenter de 8 EV, mais ça n'a pas empêché la découverte. Et avec 1400 paquets de protons dans chaque sens. Il faut voir ce que ça fait, donc arriver à me passer 1400 petits paquets de protons le long de la circonférence dans un sens et dans l'autre sens, et faire rencontrer tout ça au point de collision. Un paquet de protons, c'est 2 10 puissance 11 protons, ce qui n'est pas un nombre énorme comparé au nombre d'Avogadro. La longueur, c'est 7 cm, c'est une longueur macroscopique. Et au point de collision, on essaie de les comprimer dans l'espace, évidemment, pour qu'ils aient la plus petite section, de façon à ce qu'ils rencontrent le paquet d'en face dans un petit volume pour produire le plus de collision possible. Donc le diamètre des faisceaux au point de collision, c'est 20 microns. Donc, vous avez une machine de 27 km. Au point de collision, il faut amener deux faisceaux en collision à 20 microns, à beaucoup mieux que 20 microns près. Les gens savent faire ça très bien. Donc il y a quatre points d'intersection. Et puis, c'est pas tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est injecter dans le LHC, à partir des accélérateurs précédents qui servent d'injecteurs. Donc, l'accélérateur précédent, il injecte à basse énergie, à 450 GeV. Il injecte ses 1400 protons, paquets de protons dans un sens, ses 1400 paquets de protons dans l'autre sens. Et après, le LHC monte l'énergie de tout ça à l'énergie de fonctionnement. Donc là, 4 TeV contre 4 TeV. Et après, on laisse tourner, simplement, pendant quelques heures, typiquement 10 à 12 heures. Donc une bonne journée, ici, vous avez l'intensité de collision, le nombre de collisions par seconde, en fonction du temps, pendant une journée. Donc on a injecté une fois, ça a tourné, évidemment, les protons s'usent en se cognant, tous ceux qui ont interagi disparaissent, donc il y a un temps de décroissance. Quand ça a assez décru, on considère qu'on y gagnerait à réinjecter. On balance tout ça contre une zone de dump. On prend le temps qu'il faut pour réinjecter. On réinjecte, on recommence. Donc à chaque fois, ça veut dire réinjecter les 1400 paquets, remettre en collision, réajuster tout ça. Donc, ça, c'est une très bonne journée. Il y a des journées où il n'y a rien parce que ça ne passe pas forcément si bien. Mais c'est quand même remarquable, la prouesse technique des gens du CERN. Alors, au point de collision, on a installé des grandes expériences qui sont des observatoires de collision. C'est-à-dire, quand on dit expérience chez nous, c'est pas expérience au sens je mélange le liquide bleu avec le liquide rouge pour voir si ça fait vert ou jaune. C'est pas ça. C'est un observatoire où la machine produit des collisions de protons tant que ça peut, et nous, on regarde tout ce qui sort. Voilà. Donc, il y a quatre expériences, comme je vous l'ai dit. Donc, Atlas et CMS, qui sont les plus grandes, et qui regardent des collisions proton-proton à la plus haute intensité, avec comme but le Higgs, la physique au-delà du modèle standard, etc. Et puis deux expériences plus spécialisées et plus petites, dont je ne parlerai pas. Donc voilà ici l'expérience, d'ailleurs, moi je travaille dans Atlas, la concurrence est CMS, mais c'est très beau aussi. Voilà l'expérience CMS ouverte, vous voyez la taille du détecteur, ça c'est un homme. Voilà. Le point d'interaction, il est quelque part par là, et ça se ferme pour... fermer complètement le détecteur autour du point d'interaction. Donc ces détecteurs sont très très grands, ils sont très rapides, puisqu'on a un croisement de paquets toutes les 50 nanosecondes. Chaque détecteur élémentaire doit donner sa réponse entre 10 et 100 nanosecondes, dépendant où il est. Ils sont très finement divisés, puisqu'il va sortir des milliers de particules de ces croisements de paquets, et qu'on veut mesurer chacune avec précision. Donc il y a des millions de voies. Ils doivent être résistants au rayonnement, en plus. Et puis, à ce taux de répétition et compte tenu du nombre de particules, le flux d'informations qui sort des détecteurs, qui sont tous électroniques, évidemment, est énorme. Le flux d'informations qui sort du détecteur quand ça fonctionne, c'est plus que l'ensemble des communications téléphoniques de la planète. Mais par contre, c'est local. C'est pas distribué. C'est-à-dire, on a tout sous la main. Ça sort sur des fibres optiques, des milliers de fibres optiques. Et puis, il faut se débrouiller ça très vite. Voilà. Donc ces expériences, elles sont très grandes, très complexes, c'est des collaborations mondiales, c'est assez marrant comment ça fonctionne, et chacune rassemble à peu près 2000 physiciens venant de 150 instituts dans le monde, et c'est autogéré, ce qui est assez marrant. Bon, en France, bon, je pourrais développer aussi si ça vous amuse. Donc en France, hein, les équipes qui participent à ces expériences viennent essentiellement du CNRS et pour un laboratoire du CEA, auquel j'ai le plaisir d'appartenir. Voilà, donc les deux grandes expériences qui ont participé à la découverte de Higgs, c'est Atlas et CMS. Je ne peux absolument pas vous décrire les technologies employées, ce serait beaucoup trop long. Bon, il y en a une qui est très très grande, Atlas, fait 45 mètres de long sur 25 mètres de diamètre, l'autre qui est plus compacte mais plus lourde. Donc les buts sont les mêmes, hein, on recherche la même chose. Il y a eu deux expériences parce que le comité d'expérience du CERN a pensé que pour des trucs aussi importants, il valait mieux qu'on puisse vérifier ce qu'a dit l'autre. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez même en schéma que ça ne se ressemble pas du tout. En fait, les conceptions sont très différentes. Et pour chacune des fonctionnalités, bon, il y a des choses qui détectent les muons, par exemple, ou des choses qui détectent des hadrons. Et ben, les technologies employées sont différentes dans les deux expériences, complètement différentes. Alors, ça s'est construit par affinité. Hein. Les gens se sont rassemblés parce qu'ils étaient copains au début, puis après, ça a grossi, grossi. Mais je pense aussi que le CERN a favorisé le fait que les technologies employées soient différentes de façon à ce que les erreurs systématiques soient différentes aussi. Donc on détecte la même chose, mais par des moyens assez différents, ce qui veut dire que si on voit les mêmes signaux, il y a quand même la probabilité que ça vienne d'un problème expérimental est moins grande. Alors, quelques images des photos d'Atlas. Celle-là est assez connue. C'est le grand aimant central d'Atlas, qui est un toroïde avec 8 bobines de 25 mètres de long. C'est pendant le montage. Maintenant, tout ça est plein d'instrumentation. Là, encore un bonhomme, là. Voilà. Donc, c'était très, très grande mécanique avec des forces gigantesques. Enfin, c'est un peu équivalent à construire la tour Eiffel. Et puis, après, à appuyer dessus avec un marteau. Et puis, au centre, on trouve des choses beaucoup plus fines. Ça, c'est le détecteur central d'Atlas. Hein, il y a 80 millions de pixels d'appareils photo là-dedans. Voilà, c'est salle blanche, etc. Donc, c'est pas toujours facile de marier les deux aspects, mais on y est à peu près arrivé quand même. Hein. Voilà. Alors, un truc très très important, c'est qu'une fois qu'on a ces détecteurs et leurs réponses impulsionnelles, hein, ça sort essentiellement des nombres, hein, des mots sur un certain nombre de bits, il faut reconstruire ce qui s'est passé dans la collision. Donc, comme j'ai dit, une expérience, c'est un observatoire de collision. On regarde tous les croisements, et puis on essaie de voir s'il y avait une collision intéressante. La plupart des collisions ne sont pas intéressantes. Elles mettent en jeu des énergies faibles et de la physique qui avait déjà été vue dans les accélérateurs précédents. Donc ce qu'on cherche, c'est quelques événements rarissimes. Alors dans le Higgs, c'est encore plus vrai. Hein, il y a un mode dont je vous parlerai, dont on a vu 10 événements, à peu près, sur les milliards des milliards qu'on a vu passer en tout. Donc le problème, c'est de les sélectionner. On ne peut même pas tout enregistrer. On ne va pas enregistrer 40 millions d'événements par seconde. Ça dépasserait les capacités de stockage magnétique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter et mesurer les particules. Et puis très vite, on a des ordinateurs et des systèmes qui permettent de trier les collisions intéressantes. Et on enregistre essentiellement 300 événements par seconde, alors qu'on est parti de 20 millions de croisements. Et puis, une fois qu'on les a enregistrés, il faut les analyser, c'est-à-dire reconstituer chaque collision avec un logiciel d'analyse qui reconstitue des trajectoires, qui dit ça, c'est un électron de 32,14 GeV, là, c'est un muon de ceci, cela. Et le logiciel, typiquement, c'est à peu près 5 millions de lignes de code, hein, quand même. C'est des logiciels qui ont mis 20 ans à être construits. Alors, on avait ça. Que nous disait la théorie et les expériences précédentes sur où chercher le Higgs? On est cherché quand même, on savait à peu près où on allait. Donc, comme je vous l'ai dit, le modèle standard nous disait tout, sauf la masse du Higgs, entre 0 et 800 GeV, à peu près. Et le LEP nous avait dit que c'était pas en dessous de 114. Voilà. Alors, si on fait l'hypothèse d'une masse donnée, c'est-à-dire on dit, voilà, avant la découverte, donc je prends l'hypothèse d'un Higgs de 255 GeV, je peux par contre tout calculer, c'est-à-dire je peux calculer combien de Higgs vont être produits par collision PP bar. Bon, c'est moins d'un par milliard, hein, mais je sais exactement le nombre. Et puis quels sont les modes de désintégration et la probabilité de chaque mode. Parce qu'il peut se désintégrer de plusieurs façons avec des probabilités dans chaque façon qui varient avec la masse. C'est-à-dire pour une certaine masse, je peux dire il va aller dans 10% des cas dans telle particule, dans 25% des cas dans telle autre particule, etc. C'est ce que dit ce diagramme très compliqué. En fonction de la masse du Higgs, il vous donne, chaque courbe dit la probabilité qu'il y a le Higgs de se désintégrer dans ces particules-là, plutôt que d'autres. Ici, c'est WW, ici, c'est ZZ, etc. Donc, on est guidé par cette théorie. Et vous voyez que les courbes, elles bougent tout le temps. Ça veut dire qu'il faut que le détecteur soit très flexible, parce que si vous ne savez pas quelle est la masse du Higgs, il faut que vous soyez adapté à chercher aussi bien un cas où le mode dominant, ça va être, ou intéressant, ça va être celui-là, et puis aussi bien un cas, comme on est d'ailleurs, où le mode dominant, c'est plutôt celui-ci. D'accord ? Donc, ça demande beaucoup de flexibilité au détecteur. Mais on sait où on va, à peu près. Donc ça, ça représente les calculs, ça c'est ce qu'on appelle les graphes de Feynman, c'est notre façon à nous de calculer ces probabilités. Ça, c'est la production d'un Higgs à partir de deux protons dans lesquels on a vu deux gluons qui ont mélangé, etc., pour faire un Higgs. Et puis une autre façon de produire le Higgs, par exemple, avec un autre diagramme. Donc chacun de ces diagrammes, c'est connu, c'est calculable, voilà. Donc pour le Higgs qu'on a trouvé maintenant, 126 GeV, les modes auxquels on a accès, c'est deux photons. Le Higgs se désintègre en deux photons, ça je vous en parlerai un peu. Le Higgs se désintègre en quatre leptons, où lepton c'est un petit nom pour électron ou muon. Muon, c'est les frères lourds des électrons. Deux leptons, deux neutrinos et deux quarks B, mais ça, on n'y a pas accès. C'est pour malheureusement le mode le plus fréquent, mais il y a trop de bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y a trop d'événements qui ne sont pas des Higgs qui produisent la même chose et ça noie le signal. Donc il faut faire un compromis entre les modes qu'on saura observer, qui seront produits avec une certaine abondance et où il n'y a pas trop de bruit de fond. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire observer une nouvelle particule dans ce cas-là ? Parce que tout ça, vous allez voir, il y a beaucoup de statistiques. On va parler de signification statistique. Pourquoi observer une nouvelle particule ? Beaucoup de gens me disent dans des conférences grand public, mais alors, vous l'avez, vous la tenez, vous pouvez bien l'observer. Ah ben, c'est pas aussi simple. C'est que, je vous l'ai dit, c'est statistique. Chaque collision a produit un événement différent et on recherche des choses parmi des milliards de collisions. Donc le problème, c'est les bruits de fond. C'est-à-dire qu'il y a des bruits de fond qui sont des événements similaires, mais qui ne sont pas du tout dus au Higgs. Ils peuvent être dus à des particules déjà connues, des W, des Z, des TOP. Le TOP, par exemple, c'est une vacherie, ça vous met des électrons, des muons, des neutrinos partout. Donc ça fait facilement ressembler à des Higgs. Hein. Donc le jeu, c'est d'isoler au maximum le signal et de rejeter le bruit de fond. Vous faites une analyse qui va essayer d'être sélective sur ce qui peut être produit par un Higgs, et de rejeter au maximum ce qui serait produit par autre chose. Et après, il faudra prouver que statistiquement, vous avez bien un excès qui est significatif et qui ne peut pas être dû à une fluctuation du fond. Donc l'image que je prends, par exemple, c'est, imaginez, vous avez une surface avec une surface d'eau, comme ça, avec des vaguelettes. Vous avez des vaguelettes. Bon, ben, elles ont une certaine hauteur, elles fluctuent tout le temps. D'accord ? Maintenant, imaginons que sur le fond de la piscine, là, j'ai mis un objet. Alors vous voyez bien que souvent quand même, la vague va être un peu plus haute à l'endroit où il y a l'objet, d'accord ? Hein, forcément, parce que l'objet a tendance à pousser l'eau vers le haut. Maintenant, vous voyez, si vous faites abstraction de la sphère rouge en bas, vous voyez cette surface-là. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a quelque chose ou il n'y a rien ? D'accord ? Donc c'est ça le jeu. Le jeu, c'est d'arriver à dire, avec certitude, avec une probabilité très faible de se tromper, il y avait quelque chose plutôt qu'il y avait juste des fluctuations. D'accord ? Voilà, ça c'est notre boulot de tous les jours. Alors, parlons du fonctionnement de la machine en 2011 et 2012. Donc ça a très bien marché en 2011 et 2012. Il y a eu beaucoup de collisions produites, hein, à peu près 1 milliard de collisions par expérience. Ça, c'est le graphe de ce qu'on appelle la luminosité. Bon, c'est le nombre de collisions enregistrées par les expériences en fonction du mois de l'année. Donc en vert, c'était 2010, ça a balbutié. En rouge, ça commence à... Donc c'est intégré sur l'année. Hein. Donc ce qui est important, c'est là où on finit. Donc on finit à 5 dans cette unité bizarre. Et en 2012, on a fini finalement à presque 25 dans l'unité en question. Et là, ce que je vous parlerai, c'est les données accumulées jusque à peu près ici, parce que celles-là, on n'a pas fini de les analyser. Ça sera présenté dans 2 mois. Alors le prix à payer pour ce bon fonctionnement, c'est qu'il y avait un nombre très élevé de collisions par croisement de paquets. Donc, je vous dis, les paquets font 7 cm. Quand ils se rencontrent, vous avez des collisions un peu partout. Donc le nombre de collisions, c'était à peu près, à la fin, là, quand ça marchait bien, 25 collisions proton-proton par croisement. C'est-à-dire que toutes les 50 nanosecondes, vous avez deux paquets qui se croisent, et vous avez toutes ces... Ça, c'est un zoom sur la reconstruction de la zone d'interaction. Et vous voyez très bien toutes les collisions, tous les vertex, comme on dit, de collisions. Donc ça, c'est une collision, ça, c'est une collision. En fait, la seule qui nous intéressait, la seule qui a provoqué l'enregistrement de ce croisement, c'est celle-là. Parce qu'on a vu deux muons, qui sont des particules facilement identifiables. Donc on a identifié ces muons, on a dit « Ah, celle-là, je veux la voir ». Mais quand même, dans le même croisement, on doit se débrouiller pour regarder ce qui est sorti de celle-là qui est intéressante, en essayant d'éliminer tout ce qui est sorti de toutes les autres. Hein, donc c'est pas de la tarte. Hein. Voilà. Alors les détecteurs, on les avait bien préparés. C'est vrai que l'année d'accident nous a permis de bien les régler. Et ils sont opérationnels à 99%. Voilà. Alors le premier mode dont je vais vous parler, c'est donc la recherche du Higgs en deux photons. Donc il y avait cette prédiction que si le Higgs avait une masse essentiellement entre la limite de l'EP, hein, 114 GeV et 160 GeV, on pouvait le voir dans le mode de désintégration, Higgs donne deux photons. Donc c'est des photons de très haute énergie, hein, ce qu'on appellerait des rayons gamma très très énergétiques. Ben, c'est pas des photons comme la lumière, mais enfin c'est la même nature que la lumière, sauf qu'ils font chacun 50 GeV. Hein. Voilà. Donc ils ne déposent pas de traces chargées, puisqu'ils sont neutres dans les détecteurs. Par contre, on peut les voir dans les impacts, dans les détecteurs lourds qui sont autour du détecteur central, qu'on appelle des calorimètres, qui sont là pour mesurer l'énergie. Donc on voit par exemple un événement comme ça, il n'y avait pas de traces associées, là, croyez-moi. Et puis dans les calorimètres, c'est-à-dire le détail de ce détecteur ici, il voit l'impact d'un photon là, et de l'autre côté, l'impact d'un photon ici. Alors, suivant ce que vous voyez en détail, vous pouvez identifier plus ou moins bien que c'était bien un photon et pas autre chose. Alors, il y a du bruit de fond, il y a des autres événements gamma-gamma, c'est-à-dire qu'on appelle le fond irréductible parce qu'ils font vraiment deux photons. Bon. Et puis, il y a des faux photons, c'est-à-dire des particules qui, dans le détecteur, ont laissé le même signal ou un signal très très proche des photons qu'on n'a pas pu identifier. Donc, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la distribution de la masse invariante des deux photons pour ces événements. On sélectionne des événements qui ressemblent un peu à ça, et puis on calcule la masse qu'aurait une particule qui serait désintégrée dans ces deux photons. Et on fait la distribution de cette quantité sur tous les événements qu'on a vus. Alors c'est simple, s'il n'y a que du fond, bon, il se trouve pour des raisons cinématiques que la distribution est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, ça c'est la masse, donc vous avez plein d'événements à toutes les masses, parce que ça ne vient pas d'une vraie particule. Donc ça fait deux photons, mais avec une masse qui est n'importe quoi. Voilà. Alors ça descend parce que c'est plus difficile de produire des grandes masses que des petites. Par contre, si ces événements, de façon répétée, viennent toujours de la même particule, s'ils n'avaient que du signal, vous verriez une raie, parce que la masse serait toujours la même. Donc si vous empilez des événements, ils vont toujours s'empiler à la même masse. Alors elle a une certaine largeur parce que le détecteur a une certaine résolution. Si la résolution était infiniment bonne, ça serait une raie absolue. Donc vous voyez que vous avez tout de suite intérêt à avoir la raie la plus étroite possible, parce que quand vous allez mettre ça là-dessus, plus c'est étroit, plus ça va sortir du bruit de fond, alors que si c'est tout étalé, si c'est une patate, bah, rajouter une patate à ça, on verra rien du tout. Donc tout le but des expérimentateurs a été de concevoir des détecteurs qui ont une largeur, une résolution suffisante pour qu'avec le bruit de fond prévu, on puisse voir quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc ça, je montre là le diagramme de l'expérience concurrente, CMS, mais le nôtre est le même. Hein. Voilà, alors ça ressemble à ça. Donc, vous voyez exactement ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire vous avez le fond continu, et puis là, vous avez un petit blip qui correspond à ajouter la petite raie avec sa résolution sur le fond continu. D'accord ? Alors il faut un peu avoir les yeux de la foi pour savoir que celui-là, il est vraiment significatif, et pas celui-là, par exemple, ou pas celui-là, mais vous pouvez nous croire sur parole. Bon, il n'y a pas que ce diagramme, hein. En fait, on peut regarder d'autres propriétés et combiner ça statistiquement. Mais quand même quand on voit ça, par exemple, cette fluctuation-là, on voit bien que celui d'à côté, là, il y a une fluctuation vers le haut, mais celui d'à côté, il est vers le bas. Donc il n'y en a qu'une qui est cohérente avec un signal qui est vraiment la largeur qu'on attend de la résolution du détecteur. Alors, on ne sort pas un diagramme comme ça, ça je tiens vraiment à le dire, comme ça en claquant des doigts dès qu'on a les données. C'est le résultat d'un énorme travail d'analyse, beaucoup d'informatique, de statistiques, de calibration, d'aller dans des faisceaux, tester ces détecteurs, etc. Donc il y a des centaines de personnes qui ont travaillé pour arriver à faire ça. Dans le résultat d'Atlas, c'est à peu près le même. Alors là-dedans, il y a à peu près 300 événements, donc sur un fond qui est assez important. Dans ce canal-là, c'est un mode où il y a finalement beaucoup de statistiques. Hein, il y a un fond qui fait 500 fois 3, quelque chose comme ça, ou peut-être 1500 à 2000 événements de fond, et il y a 300 événements d'excès par rapport au fond. Alors, à l'autre mode qui nous a beaucoup servi dans la découverte, c'est le fameux mode en 4 leptons, c'est-à-dire 2 électrons et 2 muons, ou 4 électrons ou 4 muons. Parce qu'en fait, le Higgs se désintègre en 2 particules Z, chacune peut se désintégrer en 2 électrons ou 2 muons. Quand je dis 2 électrons, c'est électrons positons. Hein. Voilà. Alors là, par contre, c'est la situation opposée, c'est-à-dire qu'on attend très très peu d'événements, on attendait à cette masse-là à peu près 10 événements. Surtout les milliards de milliards qu'on a vu passer. Mais par contre, l'identification des électrons et des muons est excellente. Donc on attend très peu de fonds aussi, et ce fond est très bien connu. Donc ça, c'est un événement, encore de CMS d'ailleurs, où on a les 2 électrons ici avec leur dépôt dans les calorimètres, et puis les 2 muons qui font des traces pénétrantes dans le détecteur qu'on peut mesurer derrière. Donc on est dans la situation où il y a peu de fonds bien connus, et donc quelques événements suffisent à mettre en évidence un signal. Donc là, c'est les diagrammes d'Atlas. Donc voilà la distribution en masse invariante de 4 électrons ou muons, donc ici sur toute la gamme, donc de 100 GeV à 600 GeV. Ça, c'est un zoom, c'est exactement la même figure avec un zoom de 100 GeV à 250 GeV. Et ce qu'on a figuré, par exemple ici, en gris, gris bleu, jaune, marron et gris, c'est ce qu'on attendrait de la simulation si le Higgs est à cette masse-là. Donc s'il est à 180 GeV ou 190 GeV, on aurait dû voir ça. Vous voyez tout de suite que... Donc les points, évidemment, expérimentaux, c'est les points avec les barres d'erreur. Le fond calculé, c'est l'histogramme rouge. On voyait tout de suite que si c'était 190 GeV, on n'aurait pas cette distribution. On aurait des points qui montraient jusque-là. Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Et là, ça ressemble beaucoup. Et eh bien, c'est exact. Donc voilà. Effectivement, c'est exactement à cet endroit-là. Il y a 13 événements vus pour 5 événements attendus. Et compte tenu de leur configuration, la puissance statistique est un peu accrue. Et en fait, la probabilité d'avoir cette fluctuation-là avec ces événements-là à cet endroit-là, c'est 0,05%. Donc là aussi, hein, pour l'isoler ça, faut le savoir. Hein. Mais bon, on a des moyens de caractériser ça mieux que simplement cet histogramme. Mais on voit bien quand même que là, cette fluctuation-là, eh ben, elle colle exactement avec ce qu'on attend d'un Higgs présent à 125 GeV. Donc c'est ça la façon dont on s'est convaincu qu'on avait bien fait une découverte. Alors après, il y a des graphiques plus professionnels, peut-être un peu moins faciles à comprendre, mais pas bon. Si on ajoute tous les modes de désintégration, donc les deux dont je viens de parler, gamma-gamma et 4 leptons, plus tous ceux dont je n'ai pas parlé, mais qui sont moins significatifs finalement. On combine tout ça dans une espèce de grand ajustement statistique qui consiste à dire simplement, voilà, quelle est la probabilité que tous les bruits de fond aient fluctué dans le même sens pour me donner tous un excès à une certaine masse. D'accord ? Et on fait un grand ajustement. Alors c'est un ajustement absolument gigantesque. Hein. On regarde 70 types différents d'événements, on y colle 300 sources d'erreurs systématiques, tout ça doit être calibré source par source, enfin, c'est extrêmement pénible. Et voilà ce qu'on trouve. C'est-à-dire ici, il faut juste s'accrocher un peu, parce que c'est pas forcément très intuitif. Ceci, c'est la probabilité que le bruit de fond ait fluctué autant que ce que j'ai vu dans les données. Donc plus c'est petit, plus ça veut dire qu'il est peu probable que ce que j'ai vu dans les données soit dû juste à une fluctuation des fonds. D'accord ? Donc on est en échelle log. Et vous voyez que les fluctuations sur toute la gamme de 100 à 600 GeV, Ben, c'est des fluctuations de l'ordre de 10%. De temps en temps, j'ai peut-être la probabilité que le fonds ait fluctué autant, c'était 5%, des choses comme ça. Et il n'y a qu'un endroit où la probabilité que les fonds aient tous fluctué dans le même sens pour me faire ce que j'ai vu dans les données est extrêmement basse, c'est là. Donc c'est joli quand même, hein, sur toute la gamme. On voit, il y a des fluctuations ici-là, mais il se passe rien. Sauf à un endroit où toutes les fluctuations, si vous voulez, des données, sont allées dans le même sens, et la probabilité globale, eh ben, elle est ce qu'on appelle 6 sigma, c'est-à-dire 6 déviations standard. Donc je vous donnerai en probabilité ce que ça veut dire. C'est moins d'une chance par million d'avoir eu tout ça. Voilà. Alors si je zoome maintenant sur ce côté-là, voilà la courbe de probabilité, c'est exactement la même, c'est le zoom. Donc vu dans Atlas. Et vu dans CMS, alors ils n'ont pas publié sur toute la gamme, mais aussi sur le Zoom, et je les ai alignés, et vous voyez l'échelle ici, je l'ai mis à peu près pour que ça corresponde en échelle 130 et en phase de 130 et 115 en phase de 115, et vous voyez que l'endroit où la probabilité de fluctuation est la plus basse correspond exactement dans les deux expériences. Donc ça, quand même, c'était. Ah, donc voilà, ça c'est vraiment les diagrammes professionnels qui disent voilà comment on quantifie le signal. Donc dans l'auditorium du CERN le 4 juillet de l'année dernière à 9h, il y avait les présentations. Et je peux vous dire que dans une expérience, on ne sait pas ce qu'a l'autre. Hein. C'est embargo absolu. Les seuls qui savent, c'est les deux porte-paroles, donc Joe Incandela pour CMS. Et Fabiola Gianotti pour Atlas, qui ont eu la réunion privée avec le directeur général du CERN. Et c'est tout. Nous, moi, j'étais dans la salle, là, quelque part, et on attend de voir ce que va montrer CMS. Donc voilà. Évidemment, bon, au moment où c'est moi, voilà, on voit ça, ben, tout le monde est content. Alors, le directeur général du CERN, qui lui était dans la confidence, avait quand même fait venir donc Monsieur Higgs à droite et Monsieur Engler à gauche. Brout, comme je vous l'ai dit, ne pouvait pas venir parce qu'il est décédé. Et ça, c'est le DG du CERN, Rolf Hoyer. Voilà. Bon, la suite, vous l'avez vu dans les journaux, hein, Le Monde, Figaro, New York Times, El País, bon, il y a Hong Kong, où vous voulez. Voilà. Donc les résultats, plus sérieusement, les résultats, les journaux, ça ne compte pas. Hein, ce qui compte, c'est la publication. La publication, c'est. On a soumis deux articles à Physics Letters B, qui a eu la gentillesse de nous faire un numéro spécial, où ils ont même modifié leur couverture. On voit la région de Genève, le LHC en dessous et la chaîne du Mont-Blanc dans le fond, et les deux diagrammes choisis dans le papier que vous avez vu, donc le diagramme X en gamma-gamma de CNS et la probabilité globale du bruit de fond dans Atlas. Voilà. Donc les deux conclusions des articles coïncident, hein, c'est l'observation d'une nouvelle particule, ça c'est sûr, qui ressemble fort au boson de Higgs, parce qu'elle a quand même les probabilités des intégrations en gamma-gamma, en 4 leptons, etc., qui sont celles attendues, avec les résultats suivants, donc la masse d'Atlas 126,0 avec ses erreurs, probabilité de bruit de fond inférieure à 2 10-7, bon, et dans CMS 125,3 avec les erreurs, donc c'est tout à fait compatible, hein. Compte tenu des erreurs, bon, ils ont un peu moins de signal, mais enfin, c'est tout à fait la même chose. Depuis, on a analysé un peu plus de données, donc ça a été révisé en décembre, avec ces nouvelles valeurs-là, mais qui restent complètement compatibles aussi. Par contre, la probabilité du bruit de fond, maintenant, est déjà. Ce n'est pas les résultats finaux des analyses de toutes les données. La probabilité du bruit de fond, c'est plus que 7 déviations standards qui correspondent à 2 10-12. J'ai trouvé une analogie, c'est simple, c'est à peu près la probabilité de jeter 40 fois une pièce en l'air et de tomber 40 fois sur pile. C'est à peu près 10-12. Voilà, donc on a encore des données qu'on n'a pas encore fini d'analyser, en tout cas qu'on n'a pas publiées, et donc l'analyse est en cours, et on pourra avoir plus de détails aussi sur le Higgs, bon, son spin ou des choses comme ça, qui sont plus techniques et qui vont venir dans les semaines qui viennent, en fait. Voilà. Alors, si j'ai encore juste un peu de temps, je voudrais juste donner un aperçu du volet cosmologique, théorique. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un Higgs qu'on avait déjà prédit, comme l'a dit Daniel, sauf que maintenant, on a la valeur de la masse. 126 GeV ou 125 GeV. Alors, est-ce que cette valeur est spéciale? Quelle est la conséquence de cette découverte? Bon, la première conséquence, c'est la confirmation du mécanisme de Higgs et du boson lui-même. C'est quand même très, très important parce que c'est l'aboutissement d'un édifice théorique et expérimental qui est essentiel à notre compréhension des particules, absolument central. En particulier, la notion dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais cette espèce de transition de phase, ça s'appelle une brisure spontanée de symétrie, c'est-à-dire la symétrie entre force électromagnétique et force faible se brise spontanément. Et ça, c'est tout à fait important dans la façon dont on conçoit les interactions, le pourquoi des interactions. Question que je vais aborder dans le transparent d'après, est-ce que le fait que, oui, c'est bien le mécanisme de Higgs, est-ce que ça ne renforce pas le problème de l'énergie du vide? Alors, je vais vous en dire un mot. Il y a un problème avec l'énergie du vide, et à mon sens, le fait d'avoir trouvé que c'est bien le mécanisme de Higgs qui est en action renforce ce problème. Ce problème devient plus aigu qu'avant. C'est un problème qui a toujours été là, mais maintenant, on est obligé de se le confronter, parce qu'on ne peut pas dire c'est un autre mécanisme. C'est le mécanisme de Higgs. Et alors, l'autre question, c'est la valeur de la masse, bon, 125 GeV, donc c'est un paramètre qui est très important dans la masse des particules. Ça va nous orienter pour toute la recherche de modèles au-delà du modèle standard. On sait qu'il y a de la physique. Le modèle standard n'a pas la réponse à tout. Par exemple, il ne décrit pas la matière noire, tout simplement. Et puis, il y a d'autres questions. Donc, évidemment, ça va orienter la recherche des modèles plus complets que le modèle standard. Bon, il y a une théorie au-delà du modèle standard qui est très à la mode, qui s'appelle la supersymétrie. Il faut y confronter cette valeur. Cette valeur est juste permise par la supersymétrie. C'est la limite. Donc, ça n'a pas exclu la supersymétrie. Ça a quand même éliminé pas mal des modèles supersymétriques les plus simples. Enfin, il faut faire le compte de tout ça. Question, par contre, que cette valeur provoque, c'est une valeur qui, à mon sens, est particulière en termes de stabilité de l'univers. Je vais vous en dire un mot. Alors, ces deux questions-là pourraient faire l'objet d'une conférence à elles toutes seules, chacune. Donc, j'ai juste essayé de vous donner un parfum, puis surtout stimuler votre intérêt si d'autres orateurs vous en parlent. Voilà. Donc, le problème de l'énergie du vide en 15 lignes. Alors, c'est un challenge. Bon, alors ça marche comme ça. Je vous ai dit, le vide est quantique. Depuis qu'on fait la mécanique quantique, le vide, c'est plus juste une boîte vide. C'est un vide quantique avec des fluctuations. Et ces fluctuations des particules contribuent à la densité d'énergie du vide, au point que la densité d'énergie du vide, ça change la géométrie de l'univers et ça change l'évolution de l'univers. D'accord ? Donc la question qui s'est posée, mais il y a déjà fort longtemps, c'est est-ce que, à partir de ce que je connais des lois microscopiques, je calcule la densité d'énergie du vide, est-ce que c'est compatible avec ce que j'observe dans l'évolution de l'univers ? Alors le premier calcul qu'on peut faire donne une valeur qui est absolument énorme, totalement incompatible avec l'observation, elle est juste 10 puissance 120 fois trop grande. C'est-à-dire entre les lois microscopiques et ce qu'on sait de l'évolution de l'univers, il y a un facteur de 10 puissance 120. Alors bon, les gens incrédules qui disent oui, mais attention, c'est l'énergie, c'est toujours des différences qu'on voit, d'accord ? Donc cette valeur absolue de l'énergie du vide, finalement, c'est un offset, c'est-à-dire c'est un niveau de base. Éliminons l'offset. Pour chaque particule connue, il y a un offset, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que c'est un niveau de base, et toute la physique se réfère au niveau de base. Donc je change le niveau de base. Très bien. Et là, il y a un petit problème, c'est que pour le Higgs, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un niveau de base. Il y a une contribution qui vient du Higgs entre avant le mécanisme de Higgs et après le mécanisme de Higgs. Donc soit je l'élimine avant, soit je l'élimine après, mais je ne peux pas éliminer les deux. Et donc c'est extrêmement inconfortable. Et ça, quand on fait ce calcul-là, alors on a un peu réduit le problème, mais on a toujours un facteur de 10 puissance 40. Et là, il est assez incompressible, en fait. Il n'y a pas tellement de solutions. Ou on l'élimine avant, mais alors après, il va se retrouver à 10 puissance 40 fois trop grand. Ou on l'éliminait après, mais alors à ce moment-là, au moment du Big Bang, il est 10 puissance 40 fois trop grand. Alors ça ne va pas du tout. Bon, donc on a ce problème, avec le mécanisme. Donc c'est spécial Higgs, quand même. Le Higgs, c'est un point dur dans le problème de l'énergie du vide. Voilà, c'est ça le message. Alors pour rendre les choses encore plus confuses, la densité d'énergie du vide, ça a été mesuré dans les observations récemment, dans les 10 dernières années, dans les observations astrophysiques, cosmologiques. Alors, comme on avait un problème énorme, quand on a un problème énorme comme ça en physique, en général, on dit, bon, ben, il y a une nouvelle symétrie qui met ça à 0,0. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Sauf que maintenant, on sait combien c'est, ça a été mesuré, et c'est 0,7. Juste dans la même unité qui donne le 10 puissance 40. Là. Donc ça, c'est le grand mystère. Hein. On n'a aucune idée. Pourquoi la densité d'énergie du vide, si on l'interprète comme ça, c'est ce qu'on appelle aussi la constante cosmologique, l'énergie sombre, etc. C'est 0,7, alors que les lois microscopiques, et en particulier la densité qui est due au mécanisme de Higgs, devrait être 10 puissance 40. Ça, c'est le grand problème ouvert. Donc à mon sens, donc le problème, il est bien connu, hein, il est ancien, mais le fait d'avoir découvert que c'est le Higgs vraiment qui est en action, ça fait qu'on ne peut plus contourner ce problème en disant « Ouais, mais c'est un autre mécanisme, le mécanisme de brisure de symétrie, c'est pas un Higgs, alors on peut évacuer ça avec. » Non, on ne peut pas évacuer ça avec. Voilà. C'est d'autant plus intéressant hein, pour les physiciens. Alors l'autre problème, la stabilité de l'univers en 12 lignes. Bon. Alors j'ai essayé de vous expliquer vaguement un peu de quoi il s'agit. Alors, à cause des effets quantiques, des effets virtuels quantiques, la tension du vide qui est due au Higgs, hein, cette tension qui va donner la masse aux particules, etc., en fait, elle change suivant l'échelle à laquelle on la regarde. Ça, c'est un phénomène quantique très courant que, si on regarde à toute petite échelle, l'intensité des forces change. Alors, la variation, la façon dont ça change, le taux de changement, dépend des valeurs précises des paramètres, bon, des masses des particules, en particulier la masse du top, la masse du Higgs et la masse du W. Alors si je regarde à très 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 haute énergie, ben, le point d'équilibre de mon vide après le mécanisme de Higgs, il s'éloigne de plus en plus de la valeur avant. D'accord ? Donc le potentiel de Higgs, comme on dit, se déforme, et puis la valeur d'équilibre va s'éloigner, jusqu'au moment où elle s'éloigne tellement qu'il n'y a plus de minimum au potentiel, et puis alors là, la théorie est complètement instable. L'univers devient instable. Il ne trouve jamais l'équilibre. Après le mécanisme de Higgs, il ne va pas trouver l'équilibre. L'univers disparaît. Bon. Alors maintenant, la question, c'est jusqu'où il faut aller dans cette. On sait que ça se produit plutôt à haute énergie. Il faut aller jusqu'à quelle énergie? Alors, la limite qu'on se pose en général, c'est on dit on regarde jusqu'à l'énergie de Planck, c'est-à-dire l'énergie où la gravitation devient quantique, parce qu'après, de toute façon, on ne sait rien calculer. Donc, comme ça, on dit. Donc. Ce n'est pas extrêmement ferme, hein, tout ça. On ne sait pas faire les théories quantiques de la gravitation. C'est 10 puissance 19 GeV. Autant vous dire qu'on ne va pas y aller tester. Hein, c'est beaucoup. Mais ce serait quand même très, très, très ennuyeux que ce calcul-là, qui dit comment la tension du vide évolue, ça nous donne un univers instable pour une énergie inférieure à l'énergie de Planck, c'est-à-dire dans la physique connue. Hein. On peut admettre qu'après l'énergie de Planck, il se passe des trucs auxquels on n'a rien compris et que ça devient instable après. Bon, d'accord. C'est régularisé par la gravitation quantique. Si elle est bonne fille, elle veut bien régulariser tout ça. Comme les étrangers. C'est régularisé. Mais si le calcul dit déjà que l'univers est instable en deçà de cette limite, ça devient très ennuyeux parce que là, c'est de la physique supposément connue. D'accord. Eh bien. Il y a un truc marrant, c'est que si on tient compte de la valeur des masses des particules qu'on connaît, le top 174 GeV, le W 80 GeV, et maintenant le X 125 GeV, la masse du X à 125, c'est exactement la valeur critique. C'est quand même une grosse coïncidence. C'est-à-dire que si c'était plus lourd que 125 GeV, l'univers n'est plus stable. Si c'est plus, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, c'est juste la valeur où ça devient de stable à pas stable. D'accord ? Ça, c'est vraiment une coïncidence curieuse. C'est vraiment curieux. Alors, suivant à qui on s'adresse, à quelle théoricien on s'adresse, certains vous disent que c'est une coïncidence. D'autres, dont je fais partie, pensent que c'est un signe physique essentiel. C'est pas possible. Hein, ça... Voilà. Alors, il y a une autre... Bon, pour ceux qui sont intéressés à l'évolution de l'univers, comme on a cette valeur donc à l'énergie de Planck, qui serait juste, donc, avec compte tenu de cette masse, hein, qui est juste... critique, c'est-à-dire l'univers est presque en train de devenir instable, ça rappelle un peu l'inflation. L'inflation primordiale, le truc qui a fait que l'univers s'expand dans sa première femtoseconde très très rapidement. Voilà. Donc il y a des théoriciens qui parlent de Higgs inflaton, mais là ça devient vraiment exotique. Voilà. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a quand même deux questions liées à la cosmologie, c'est l'énergie du vide, qui est confrontée maintenant au mur du potentiel de Higgs. Il n'y a pas moyen de l'évacuer. Et cette valeur est quand même curieusement celle qui fait un univers juste, stable, limite stable à l'énergie de Planck. Voilà, c'est juste. Donc, si vous entendez d'une conférence sur la stabilité de l'univers, allez-y, j'espère avoir attiré votre curiosité. Voilà. Ouf, j'ai pas tout. Bon. Ah, la suite, si, bah, la suite quand même. Donc, on a fonctionné jusqu'à mi-décembre de l'année dernière, à 4 TeV, comme je vous l'ai dit, et maintenant le LHC s'arrête 2 ans pour réparer justement les problèmes de soudure qui nous avaient mis l'accident en 2008. Et pouvoir redémarrer à l'énergie pleine 7 TeV par faisceau en 2015. On va continuer d'analyser nos données de façon, j'espère, plus calme. Voilà, il y a plein d'autres physiques à faire que celle du Higgs à LHC, mais je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Et on redémarrera en 2015 14 ou 13 TeV, bon, suivant ce qui se passe. Voilà. Donc il y a plein de physiques exploratoires maintenant, au-delà du Higgs. Est-ce qu'il y a plusieurs bosons de Higgs? Est-ce qu'il y a la supersymétrie, des dimensions supplémentaires? Voilà, c'est ce qu'on essaie de trouver. Voilà. En conclusion. Donc le LHC et les détecteurs ont très 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 bien fonctionné. On a découvert cette particule qui ressemble beaucoup au Higgs. Et je voudrais insister sur ce fait, bon, c'est comme l'a dit Daniel, un très long effort. Et cet effort, il a été international, collaboratif totalement et continu. C'est-à-dire on n'a pas été embêté par des gouvernements qui disent « Ah non, votre truc, c'est plus intéressant, on arrête, on recommence, on arrête ». Non, on a été soutenu du début jusqu'à la fin. Et c'est des valeurs assez rares pour être mentionnées. C'est gratifiant pour les plus anciens comme moi, c'est aussi très enthousiasmant et formateur pour les jeunes, on a énormément d'étudiants. Et moi, c'est une aventure à faire partager avec le public, dont je vous remercie. Voilà.
Oui, bonsoir. Merci pour cet exposé, très, très enrichissant. Je suis vachement profane, en fait, dans la matière. Je vais vous poser une question, parce que je me suis remémoré à un événement l'année dernière où une personne avait dit avoir trouvé une particule qui allait plus vite que la lumière.
Oui.
Et ils se sont aperçus que c'était, en fait, un problème, enfin, je suppose que c'était ça, un problème...
De mesure directement reliée à un satellite. Et je voulais savoir...
Non, le problème, c'était un câble mal enfoncé.
Ah bon, ok. Je voulais simplement savoir, est-ce que vous avez la certitude, est-ce que vous avez la certitude de la théorie de Higgs et d'avoir découvert le boson de Higgs, enfin, l'intime certitude.
Ça, c'est un peu prévu quand même.
Alors, on n'aura jamais la certitude, hein, puisque on peut s'approcher expérimentalement aussi près qu'on veut de la théorie. D'accord. Donc tout ce qu'on pourra donner, c'est des barres d'erreur de plus en plus petites, de plus en plus réduites autour de la théorie. Maintenant, il peut toujours y avoir un théoricien qui dit « Ah oui, mais vous l'avez mesuré telle propriété du Higgs que c'est la bonne à 1 pour 1000, mais moi, je prédis qu'elle n'est pas la bonne à 1 pour 10 000. » Alors, il n'y a pas de certitude comme ça. En science, on ne peut que falsifier les hypothèses. On ne peut pas les confirmer. D'accord. Monsieur Popper, le philosophe, a inventé ça. Il a raison. Si on dit telle quantité, c'est 1 et je mesure 2, bah, avec une barre d'erreur qui est 2 plus ou moins 0,01, je suis sûr que c'est pas 1. Mais si je veux prouver, si la théorie dit que c'est 2, tant que je peux mesurer 2,001, il y aura toujours un gars qui pourra dire « Ah oui, mais c'est pas 2, c'est 2,000. » D'accord. Donc on peut pas être sûr. Donc, bon. Après, il faut utiliser son jugement pour dire quand même... Le seul truc à faire, c'est de proposer un modèle concurrent. Voilà. C'est est-ce qu'il y a un modèle concurrent qui décrit mieux les mesures que la théorie de Higgs ? D'accord ? Donc pour le moment, non.
Pour préciser la question qui a été posée, je présume que le boson de Higgs n'est pas simplement caractérisé par son énergie.
Absolument.
Il a d'autres propriétés.
Voilà. Il a comme propriété son spin, qui est zéro dans la théorie, sa parité, qui est plus. Alors ça, c'est des quantités qu'on va commencer à mesurer. Là, on avait juste assez pour voir l'excès. Hein. Là, on commence à s'attaquer à la mesure du spin. C'est assez difficile. Avec les données qu'on a accumulées ces 2 années, on pourra vous dire, par exemple... Alors, il est exclu que ce soit 1, parce qu'un spin 1 ne peut pas se désintégrer en 2 photons. Donc comme ça, c'est clair que c'est fait. Mais ça pourrait être 2... Et là, on aura une certaine sensibilité. C'est-à-dire on pourra exclure le fait que ce soit 2 avec une probabilité de 5%, typiquement. enfin de 95%, 5% de chance, avec 2 ans de données. Donc c'est pas ça, c'est pas une exclusion terrible. Bon, maintenant, il n'y a aucun théoricien qui a un modèle qui fait une particule comme ça de spin 2. Hein, donc c'est un peu un cas d'école, mais bon. Donc c'est ce que est-ce bien le Higgs? Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que ça y ressemble. Donc le mode photon-photon est quand même très caractéristique. En particulier, il n'est pas accessible si c'était un spin 1. Donc si c'est un spin 0, il est à droite. Le nombre d'événements observés, ça c'est aussi très important, parce que la théorie prédit exactement combien on doit en observer. Donc ça, c'est les dernières mesures qui datent de novembre. C'est 1,35 plus ou moins 0,24 fois le nombre attendu dans Atlas, et 0,88 plus ou moins 0,21 fois le nombre attendu dans CMS. Donc ça, ça comprend la valeur 1 très bien. D'accord. 1, c'est ce qu'on attend. Hein. Une fois le nombre attendu, c'est... voilà. Et puis après, les autres... Alors il y a aussi une chose importante, là j'ai parlé que de gamma-gamma et 4 leptons. On a vu déjà le Higgs maintenant dans d'autres modes, comme WW, et on attend des modes beaucoup plus difficiles, comme tau-tau ou BB-bar. Donc là aussi, ben, à chaque fois, ça sera une confirmation que c'est bien ce qu'on a... Ben, on peut avoir des surprises. Par exemple, le taux de désintégration juste en gamma-gamma, il est un peu élevé pour le moment, mais c'est un effet à 2 déviations standards, c'est-à-dire rien, quoi. Donc ça, on va surveiller ça, et puis on verra ce que ça donne dans quelques années.
Une autre.
Merci pour cet exposé. Un peu dans le même esprit, vous avez annoncé, je crois, que vos mesures étaient à 6 sigma. Il y a beaucoup de mesures en astrophysique qui sont à 1 sigma, hein, des mesures de Z, qui ne remettent pas en cause la théorie et qui sont à 1 sigma, c'est-à-dire à 60% de barre d'erreur. Hein.
Je ne comprends pas bien la question. C'est un peu...
Vos mesures, vous dites, vous êtes à 6 sigma.
Ouais. 7 maintenant.
Même 7 maintenant, c'est encore mieux. Il y a des mesures en astrophysique qui sont données à 1 sigma.
Ben, j'aurais pas trop confiance. Enfin, je parierais pas, je parierais pas ma chemise sur une mesure à 1 sigma. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si des théoriciens ont envie de passer 3 ans de leur vie à élaborer des modèles sur une mesure expérimentale à 1 sigma, c'est un risque qu'ils prennent.
C'est ça, la constante de Hubble.
Oh non, pas du tout.
Quelle est l'origine du boson de X? C'est-à-dire, d'où vient-il?
D'où vient-il? Comme tout le monde. Hein. ça dépend. Si vous croyez... mais d'où vient l'électron? D'où vient la liste des particules? On n'en a aucune idée. Il n'y a pas de principe unificateur plus profond que ce que je vous ai montré. À chaque fois, on essaie d'unifier. Par exemple, on a donc 12 particules élémentaires, hein, 6 quarks, 3 électrons et frères et 3 neutrinos. Voilà, c'est des particules élémentaires aujourd'hui. D'où viennent-ils? On ne sait pas plus. On a beaucoup essayé de les marier ensemble, c'est-à-dire de dire que, par exemple, les quarks et les électrons étaient constitués de briques plus élémentaires, des préons, quelque chose comme ça, en plus petit nombre. En général, on essaie quand même qu'elles soient en plus petit nombre. Puis de dire, c'est une seule particule qui a donné toutes les autres en s'assemblant, par exemple, comme on avait fait avec les noyaux ou avec les atomes. Et on est jamais, pour le moment, on n'y est pas arrivé. Donc on a toujours nos 12 particules élémentaires, on a toujours nos 4 interactions et notre boson de Higgs.
Donc on a gagné quand même en simplifiant énormément le décor, là, avec le boson de Higgs. Parce que c'est lui qui qualifie la masse d'un
oui.
Nombre
important. On a gagné en consistance logique, on n'a pas gagné en nombre de paramètres, parce que la masse qu'il donne aux particules est toujours un paramètre arbitraire de la théorie.
La masse de...
La masse que le Higgs donne aux particules est toujours un paramètre arbitraire de la théorie.
C'est ça.
Simplement, avant, les particules n'avaient même pas le droit d'avoir une masse.
Oui, mais alors les particules ont une masse, mais n'ont pas n'importe quelle masse. Donc comment le boson se débrouille pour distribuer ces masses d'une manière qui n'a pas l'air d'être continue, hein?
C'est ni plus ni moins...
La valeur,
c'est ni plus ni moins arbitraire que la masse des particules elles-mêmes. C'est-à-dire que la façon dont il agglutine le vide autour de lui, il y a une constante de couplage qui est exactement, qui va juste donner, c'est la racine carrée de la masse essentiellement. Donc on n'a pas gagné dans la prédiction numérique de la masse de l'électron. Là, on n'a rien appris.
Parce que dans l'analogie de la BD, on pourrait s'attendre à ce qu'à la sortie, vous ayez Des grosses, des petites.
C'est exactement ce qui se passe. Il y en a des grosses et des petites, mais on ne sait pas pourquoi.
Oui.
On sait pas pourquoi.
Mais là, c'est systématiquement les mêmes grosses, les mêmes petites. C'est-à-dire qu'il y a des classes et des familles. C'est pas n'importe quoi, quand même.
Alors, la question des familles est une autre question. Ouais. Il y a des familles, mais ça, ce n'est pas relié directement au mécanisme de Higgs.
D'accord. Okay. Bon, je vais arrêter de...
Il n'y a pas un diviseur commun connu, non.
Bonsoir et merci. Quelle hypothèse fait-on pour expliquer que le photon, lui, n'a pas de masse ?
Ah, alors ça, c'est... Oui, ça, c'est une très bonne question. Je l'ai dit très rapidement. Alors ça, c'est vraiment constitutif. C'est-à-dire que le Higgs a été inventé, plus ou moins, pour donner une masse au boson intermédiaire faible et ne pas en donner au photon. Donc c'est vraiment constitutif de la théorie, ça... C'est pas vraiment une explication, c'est fait comme ça. Le potentiel de Higgs, il est vraiment construit comme ça. Bon, c'est assez naturel quand même, parce que le photon a un rôle très particulier dans la théorie. Comment expliquer ça de façon simple ? C'est un peu lui qui donne l'échelle, parce que c'est la vitesse, on le sait bien, c'est la vitesse de la lumière, d'accord ? La vitesse de la lumière n'est pas dépassable, et il a des... une propriété de jauge, etc., qui est très particulière. Donc, c'est quand même la référence. Et je n'arrive pas bien à exprimer pourquoi, à part qu'on l'a construit comme ça, finalement. C'est un peu pareil, c'est un peu comme qu'est-ce qui fait la constitution. Disons qu'il y a une façon quand même très, très naturelle, quand on construit le mécanisme de Higgs, de faire que, justement, le photon y échappe. Voilà. C'est une question de théorie des groupes, un peu, qui fait que le photon, lui, il ne va pas être couplé au Higgs.
La masse en question, c'est la masse inertielle.
Toujours.
Oui. Et alors, la masse gravimétrique, elle est due à quoi alors ?
Ah, ça, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de théorie.
C'est toujours...
Pour la tout ce qui concerne la gravité, la théorie qu'on a, qui marche bien, hein, c'est la relativité générale, mais dont on n'a jamais su donner une version quantique. Donc, tout ce que j'ai dit, là, c'est mécanique quantique et relativité restreinte. Mais on n'a pas de version quantique de la relativité générale. Donc on ne sait rien dire sur les propriétés quantiques de la gravité. Donc évidemment, rien non plus, comme j'ai dit, le Higgs est directement relié à la structure du vide quantique. Donc on n'a aucune idée du Higgs versus gravité.
Merci pour la conférence. Mais je me pose la question, j'ai bien compris que le boson de Higgs aurait donné la masse à toutes les autres particules au moment du Big Bang, selon les théories des mathématiciens essentiellement, pas des physiciens. Mais alors que fait-il là maintenant, après avoir fait son ouvrage là, parce que ça fait quand même des années qu'il a donné cette masse. Et puis, qui lui a donné la masse ? Et comment a-t-il pris cette masse-là ? Est-ce qu'on n'est pas en présence de concepts mathématiques, théorie des groupes et compagnie ? Oui, mais hélas, qui s'écartent très facilement de la physique réelle.
Non. Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent.
Que fait-il là et qui lui a donné ? Et comment a-t-il pris sa masse, lui ?
Non, attendez.
Ce qui a donné la masse aux particules,
c'est le mécanisme de Higgs, c'est-à-dire cette espèce de tension induite dans le vide au moment de la transition de phase. Le boson là-dedans, il n'est que le témoin de ça. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui dit que si je mets suffisamment d'énergie dans le vide, de temps en temps, je vais pouvoir créer des bosons. Parce que le vide a cette propriété de s'autocondenser autour de l'énergie que je colle dedans.
Oui, c'est ce qui est déjà une théorie très, très, très hardie.
Non,
c'est un échafaudage sur un échafaudage.
Non.
À force de superposer des échafaudages théoriques, j'ai bien peur que... Dans quelques années, on rit du boson.
Oui, c'est toujours vrai. C'est une bonne question. C'est une question qu'on doit toujours se poser. Hein, est-ce que je ne suis pas en train de construire des épicycloïdes, pour parler d'avant Copernic ? Je ne crois pas que là, ce soit le cas. Le côté brisure de symétrie, du vide et tout ça, me paraît assez profond et assez général dans la physique. D'ailleurs, c'est un truc qui a été inventé dans la physique des solides. Hein, par Anderson, le fameux Anderson que j'ai cité, c'est un physicien des solides. C'est lui qui a le premier pensé à ces brisures spontanées de symétrie comme ça. Donc ça, je crois que c'est... Non, mais par contre, la question se pose beaucoup plus dans l'Institut d'astrophysique, avec le modèle de concordance astrophysique, qui dit que la matière connue, c'est 4% de l'énergie de l'univers.
Tout ça pour
23% c'est la matière noire qu'on ne connaît pas, qui est de la matière, et puis 73%
c'est l'énergie. Tout ça pour déboucher sur un point d'interrogation qui fait poser des questions sur l'échafaudage en 1000 étages.
La question, il faut se la poser. Maintenant, ça n'est fertile que si on propose autre chose. D'accord ?
Question, un complément ?
Dame.
Oui ? Ah, je repars.
Merci. Je voudrais en fait de nouveau insister sur la question que vous avez soulevée tout à l'heure. Vous avez répondu assez rapidement, mais c'est vrai que je crois que tout le monde se la pose. Vraiment, mais comment le mécanisme sait que pour les électrons, c'est telle intensité de couplage il faut, et pour les muons, ben justement, ça sera différent. Donc c'est vrai que vous n'avez pas vraiment répondu.
Non, parce que je ne sais pas. Mais c'est pas plus, y a rien de plus arbitraire que de dire simplement avant qu'on pense au mécanisme de Higgs, j'avais des électrons, des muons et des taux avec des masses différentes. Je les avais, ces particules. On n'avait aucune explication à la valeur de leur masse. Donc, il est clair que le mécanisme de Higgs ne répond pas à cette question. On ne sait pas pourquoi il y a des électrons, des muons et des taux qui ont des valeurs de masse différentes. Tout ce qui fait, c'est que si on ne l'a pas, on sait que non seulement c'est les particules ont une masse, mais elles sont illégales, ces masses, d'une certaine façon. C'est-à-dire, elles perturbent tellement les symétries qu'on ne comprend pas du tout comment la théorie fonctionne, et même on a des gros problèmes. Parce que si on essaie d'extrapoler la théorie à haute énergie, on va avoir des phénomènes qui divergent, enfin des probabilités plus grandes que 1, etc. Donc c'est très important que les masses soient données par un mécanisme type boson de Higgs. Ça rend les choses au moins abordables. Mais les valeurs, non, on n'a pas d'idée. Il y a des tas de trucs comme ça. Les trois familles, par exemple, quelqu'un a cité les trois familles de particules. Pour ceux qui savent qu'il y a trois familles de particules, on n'a aucune idée pourquoi. Heureusement qu'il y a encore des choses à chercher.
Dernier petit gadget.
Personne ici n'a mentionné cette incommensurable bêtise que les médias se sont empressés de mettre dans tous les titres, la fameuse particule de Dieu. Donc c'est que tout le monde est au courant d'où ça vient. J'ai entendu une des scientifiques dans une émission qui avait assisté au problème, qui a créé cette chose, qui fait qu'après on est allé demander à des théologiens célèbres ce qu'ils en pensaient. C'est qu'en anglais, il y a un de ceux qui en parlait, qui disait « that goddamn particle ». Ça a été traduit, au lieu de dire « cette foutue bordel de Dieu de particules », ça a été traduit bêtement comme « particule de Dieu ». Voilà ce qu'elle a dit. Et c'est pour ça que maintenant, plus personne n'en parle.
Je crois que c'est pas seulement... Non, c'est pas bêtement, parce qu'en fait, je crois que bien sûr, c'est Léon Lederman qui a eu cette expression, a donné à son éditeur l'idée... En fait, il voulait même l'intituler de Goddamn Particle. Mais il a dit, non, ça, oulala, on ne peut pas appeler un livre Goddamn, ça n'irait pas du tout aux États-Unis. Et après, il a dit, sans lui demander son autorisation, je vais l'appeler The God Particle. Et il a vu apparaître le bouquin après. C'était bien joué, pour de ma part de l'éditeur. Il en a vendu beaucoup plus sur la planque. Ceci dit, à la défense de l'éditeur, il y a quand même un petit côté, évidemment pas Dieu, etc., ça n'a rien à voir avec le théisme, mais il n'empêche que le rôle du Higgs est très très particulier dans la théorie. C'est celui qui donne les masses aux particules, c'est-à-dire que si le mécanisme de Higgs n'existait pas, on aurait, comme j'ai essayé de le dire, un univers qui est parcouru par des particules qui vont toutes à la vitesse de la lumière, qui font rien de matériel. D'accord. Rien de matériel, pas d'étalier, rien. À cause du mécanisme de Higgs, ça fait des masses, ça va faire des étaliers, ça va faire des noyaux, des atomes, etc. Donc, l'image n'était pas si fausse que ça.
Probablement. Je voudrais clore cette conférence en remerciant encore une fois Bruno Mansellier. Merci.